En immersion, un podcast des agences de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud.
Et moi, Louise Réjean.
Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience.
Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire.
Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile.
Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu.
Voire pas du tout.
Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement.
Alors on vous propose de partir à leur rencontre.
Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain, et c'est parti, on vous embarque avec nous.
À la découverte du petit monde insoupçonné de la Saône.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Adrien Giraud et aujourd'hui, je me trouve à Mâcon, une ville de 33 000 habitants qui s'est construite sur les bords de la Saône. Cette rivière fait l'objet d'un programme de restauration ambitieux, car les aménagements qu'elle a subis, les pollutions agricoles, industrielles et urbaines qu'elle reçoit, ainsi que le changement climatique, dégradent la qualité de ses eaux et menacent la biodiversité. J'ai rendez-vous avec Loïc Bolache, professeur en écologie au laboratoire Crone Environnement du CNRS à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Il aime savoir comment pensent les animaux. C'est d'ailleurs le titre de l'un de ses bouquins. On doit se retrouver au club nautique. J'aperçois des avirons, des bateaux à voile et des bateaux de plaisance. On est dans un environnement urbain où la Saône est au centre de tout.
Bonjour Loïc.
Bonjour Adrien.
Vous allez bien ?
Très très bien, en pleine forme.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit pour nous présenter la Saône ?
Alors cet endroit, il est typique de la Saône parce que sur cette rive, la rive droite ici, on voit une zone très très aménagée. Et quand on regarde en face, on est au bord des... On a une Saône qui est beaucoup plus, on dirait, naturelle, avec ce qu'on appelle une ripisylve, c'est-à-dire toute cette grande zone d'arbres le long des berges qui est encore très très présente, que les arbres viennent plonger dans la Saône. Et juste derrière ces arbres, on a cette grande plaine d'inondations, ces prairies naturelles qui sont extrêmement riches en biodiversité.
Eh bien, allons-y, c'est parti.
C'est parti.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Loïc Bolache ?
Alors, je suis professeur à l'Université de Bourgogne, à Dijon, rattaché au laboratoire Crone Environnement de Besançon, donc un produit bourguignon et franc-comtois. Et je travaille sur l'interaction entre les espèces dans différents milieux, et entre autres les milieux aquatiques comme la Saône.
Je crois que vous avez grandi ici, c'est ça, hein ?
Alors, je suis né à Mâcon. J'ai fait une grande partie de mes études à Mâcon. Et c'est une rivière que je connais plutôt bien parce que je venais pêcher avec mon père sur la Saône et les affluents de la Saône, comme la Seille. Et puis, lorsque j'étais en âge d'être un peu plus indépendant, je venais faire des observations d'oiseaux au bord de la Saône, sur les rives et dans les grandes plaines inondables derrière.
On peut dire que vous avez un rapport particulier avec cette rivière ?
J'ai un rapport sentimental avec cette rivière. Ça me fait toujours du bien lorsque je la vois. Je la vois se transformer doucement. Doucement, la Saône, c'est une rivière qui est douce dans tout.
Et qui se transforme, donc.
Et qui se transforme malgré tout, oui.
Ça tombe bien, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, parler de la transformation de la rivière. La Saône, c'est quel type de rivière ?
Alors la Saône, c'est une des plus grandes rivières de France, à l'exception naturellement des grands fleuves qui va se jeter dans le Rhône. C'est une rivière très très large, très, très grande, qui a presque naturellement l'aspect d'un fleuve, même si ce n'en est pas un. Et c'est une rivière qui, là où on est à Mâcon, est très très lente, parce qu'il y a très peu de pente, donc elle a un débit qui est assez faible. Mais elle peut... Elle peut s'énerver lors des périodes de crue, soit en automne, soit au printemps. En automne, c'est lié aux pluies abondantes d'automne. Au printemps, c'est lié à la fonte des neiges du Jura et puis aux pluies de printemps. Et lors de ces deux périodes de crue, elle peut tout d'un coup s'énerver, monter, pas très rapidement, mais monter quand même, et puis multiplier par 10, 20 ou 30 son débit.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que l'activité humaine a dégradé la Saône ?
Alors, elle l'a dégradé de deux manières. Elle l'a dégradé physiquement, puisqu'on a rectifié les berges, on a changé son lit, on a creusé son lit mineur pour faire passer les bateaux. Et puis, une autre menace, un autre changement, mais qui est moins visible, on a déjà parlé de la température, mais il y a aussi une autre menace qui est celle de la pollution ou des pollutions diverses, des pollutions chimiques, des pollutions de métaux lourds, des pollutions aujourd'hui des résidus de médicaments qui viennent naturellement impacter l'écosystème puisque la Saône est une rivière habitée. Tout autour de la Saône, il y a des habitations et donc naturellement, il y a un certain nombre de déversements de produits dans la Saône qui viennent impacter son écosystème.
Vous vouliez mettre les pieds dans l'eau ?
Ben en fait, oui, peut-être. Elle est claire, l'eau. Elle est presque belle. Donc je peux essayer de voir s'il y a des espèces. On en voit, en fait. On voit des espèces qui sont... on voit des traces. On voit des traces de corbicules. Ce sont des mollusques qui ressemblent un peu à des coques que l'on trouve en milieu marin. Mais c'est en eau douce et c'est une espèce invasive qui vient d'Asie et qui a traverser une partie de l'Amérique du Nord pour se retrouver en Europe et qui a colonisé tous nos grands fleuves. Et donc ça crée un tapis de mollusques qui viennent, de bivalves, pardon, qui viennent filtrer l'eau et se nourrir et servir aussi d'alimentation pour d'autres espèces qui se nourrissent de ce type d'organismes.
Et c'est quoi les conséquences du coup sur l'écosystème ou sur les espèces autochtones ?
Une conséquence des bivalves invasifs, c'est qu'ils vont être très très nombreux sur le fond de la Saône, mais d'autres rivières. Et ils vont beaucoup filtrer, ils vont avoir une action de filtration qui est très très importante. Et ça va donner un aspect d'une eau très très claire, presque pure. Donc les gens sont très rassurés, ils se disent « mais la Saône est très très belle, l'eau est pure ». Et en réalité, c'est un signe de dysfonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de micro-algues pour nourrir les jeunes poissons. Il n'y a pas assez de ressources alimentaires pour les jeunes poissons et donc ça crée un dysfonctionnement de l'ensemble de la chaîne trophique de l'écosystème et les petits poissons ont souvent beaucoup de mal à se nourrir lorsque l'eau est très claire parce qu'il n'y a plus assez de nourriture de base, ce qu'on appelle le phytoplancton ou le zooplancton.
Qu'est-ce qu'on cherche là du coup ?
Eh bien on cherche des petits, comme sur les plages, on cherche des petits coquillages sur les plages. Alors si je retourne des cailloux, on va trouver des moules zébrées, qui sont des sortes de toutes petites moules, mais pas celles que vous mangez avec les frites. Ce sont d'autres petites moules qui elles aussi viennent, sont des espèces invasives. Elles viennent de la mer Caspienne ou de la mer d'Azov, donc elles viennent de l'est de l'Europe. Et elles ont envahi nos rivières, comme elles ont envahi les grands lacs nord-américains. Et elles aussi, elles ont un pouvoir de filtration extrêmement important, qui est presque 100 fois supérieur au pouvoir de filtration des moules naturelles que l'on trouve dans nos rivières, ce qu'on appelle les anodontes. Et à taille égale et poids égal, elles sont 100 fois plus filtrantes.
Je suis sûr qu'on en trouve plus
concrètes. Ça, c'est des moules zébrées. Voilà, des moules zébrées. Dès qu'on retourne un caillou, on les trouve dessous. Et il y en a un grand nombre, quoi. Et elles sont bien tranquilles, ici, bien au chaud, dans un écosystème accueillant pour elles, constitué de rochers, d'aménagement. Là, on est sur des berges de la Saône qui ont été aménagées, elles sont rectifiées. Donc on voit des grands enrochements qui ont été mis le long pour avoir des rives rectilignes. Ces grands enrochements protègent les berges des vagues provoquées par les péniches. Lorsqu'elles passent sur le chenal, elles vont avoir ces effets de vagues qui vont venir raboter et venir éroder les berges. Donc pour protéger les berges, on est obligé de mettre des grands enrochements. Et ces grands enrochements créent un nouvel habitat, un nouveau milieu extrêmement propice et favorable aux espèces invasives.
Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Il faut essayer de les enlever quand on en voit ? Ou est-ce qu'il y a... Non, juste on est obligé de les laisser prospérer, il n'y a pas le choix ?
Alors, toutes ces espèces invasives, on ne peut rien faire. On va vivre avec. Ce que l'on peut essayer de faire, c'est intensifier la résistance de l'écosystème naturel. Donc, c'est un des projets du contrat Saône avec l'Agence de l'eau. C'est dans des zones particulières, de diversifier les berges, d'enlever par endroits certains enrochements, ou en tout cas de diversifier les berges de manière à retrouver des berges un peu plus naturelles, avec plus de végétation. Et cela, ça va permettre aux espèces locales de mieux résister aux invasifs.
Et au niveau du changement climatique, est-ce que vous le constatez, vous, par rapport à votre parcours et à vos travaux ?
Le changement climatique a deux effets au niveau de la température. Le premier, c'est une augmentation globale de la température de la rivière. Mais un autre effet qui est des fois plus difficile à appréhender pour le grand public, ce sont les variations rapides de température. C'est-à-dire que on peut avoir en quelques jours des fortes variations de température, soit positivement, soit négativement. Et il faut imaginer que pour les poissons qui vivent dans la Saône, être capable de répondre physiologiquement à des changements aussi brutaux, c'est très complexe. C'est exactement comme nous, lorsque l'on doit passer avec des températures de l'air libre de 20 degrés à 35 degrés en l'espace de 24 heures. Ça nous fait un choc, on sent qu'on est fatigué, on sent qu'on a du mal en tant qu'espèce de vertébré à répondre à ces changements brutaux. Et bien pour les poissons, c'est la même chose, et donc on doit étudier, et on va étudier dans les prochaines années, comment ils sont capables de répondre à ce type de changement très rapide de température.
Est-ce qu'il y a des solutions qui sont possibles ?
Alors la première solution qui dépend de la prise de conscience des différents acteurs de la Saône. Les acteurs, ce sont d'abord les usagers de la Saône, les pêcheurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Il y a encore un certain nombre de pêcheurs professionnels sur la Saône qui vivent de l'exploitation du poisson. Ce sont les fédérations de pêche, ce sont les agriculteurs qui ont besoin de la Saône pour irriguer, ce sont les populations locales qui doivent ou non lutter contre les inondations. Et donc les différents acteurs, l'établissement public Saône-Doux, l'agence de l'eau RMC, ont décidé, au sein d'un contrat de rivière, d'établir un certain nombre d'actions, de hiérarchiser des actions pour pouvoir favoriser la réponse de l'écosystème ou les étudier. Donc il y a deux types d'actions, ce qu'on appelle des recherches connaissances, où on essaye de comprendre ce qui se passe et de voir comment l'écosystème réagit, et en même temps des actions où dès maintenant, on essaye d'aménager, de réouvrir des frayères à brochets, qu'elles soient reconnectées à la Saône, de favoriser la reconnexion de ce qu'on appelle des milieux annexes, des bras morts, des zones un peu refuges pour les espèces locales. Et on essaye de reconnecter ces systèmes-là à la Saône, de manière à les faire durer, perdurer ou les améliorer pour créer des îlots de résistance et espérer que ces espèces qui vivent dans ces îlots puissent un jour recoloniser totalement la Saône.
Qu'est-ce que c'est une frayère à brochet ?
Alors une frayère à brochet, c'est un milieu pas très un milieu naturel dans lequel les brochets vont venir frayer au printemps avec des eaux assez chaudes, calmes, qui vont inonder une partie de la prairie, et les brochets vont venir frayer dans ces milieux-là et de manière à être tranquille et avoir ces jeunes larves de brochets qui vont pouvoir prospérer, grandir jusqu'à rejoindre le lit de la Saône une fois qu'elles seront assez grandes. Ce qui est important sur les frayères à brochets, c'est lorsque l'on réouvre des bras morts, on favorise le brochet comme espèce sensible et espèce emblématique, mais on va aussi favoriser tout un cortège d'autres espèces qui vont en profiter. Ça peut être des amphibiens, des batraciens, d'autres espèces de poissons. Donc on ne favorise pas qu'une espèce, on remet en place en réalité un rythme naturel de la rivière, et ça va favoriser et ça va être bénéfique à l'ensemble de l'écosystème. C'est un peu comme un humain où il a des résistances pour lutter contre les agressions, et des fois on vient booster un peu sa résistance. Et bien un écosystème comme la Saône, on est obligé d'agir aujourd'hui pour essayer de l'aider à résister concrètement, par exemple au réchauffement climatique, au réchauffement des eaux et à la baisse du volume d'eau.
Et en termes de perspective, comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous voyez ce territoire dans 5, 10, 15, 20 ans ?
Alors je pense que si l'on revient dans 10 ans au même endroit sur la Saône, son aspect physique n'aura pas beaucoup changé. Ce qui va vraiment changer, c'est ce que l'on espère, c'est la qualité de l'eau. C'est-à-dire lutter contre les pollutions diverses et essayer de créer des zones refuges en termes de thermie. Par exemple, creuser des fosses pour que les poissons puissent trouver des eaux plus froides en plein été et se protéger des fortes chaleurs.
Donc la Saône a un territoire en mouvement, en tout cas en constante évolution
En constante évolution, en constant changement, avec une action de l'homme omniprésente, négative pendant un certain temps, et on le souhaite positif dans les années futures.
Ma balade au bord de la Saône est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très
très bientôt sur une autre rivière, un autre fleuve, ailleurs en France.
Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdelau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.